Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Casal. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Sigrid Avrillier qui va évoquer pour nous l'histoire et la mémoire de la lumière. Et cela à travers un ouvrage qu'elle vient de publier, un portrait de Pontormo, peintre florentin du XVIe siècle, aux éditions Magenta. C'est la collection L'œil du copiste. Pontormo est un très grand peintre de la Renaissance italienne. Tombé dans l'oubli pendant près de 4 siècles, il a été redécouvert au début du XXe siècle et de plus en plus à l'honneur. D'ailleurs, grande exposition Pontormo et Rosso à Florence en 2014, exposition Pontormo Dessins à Madrid en 2014, et depuis le 11 septembre 2015, exposition au musée Jacques Marandré à Paris, Florence, portrait à la cour des Médicis. Pontormo est peu connu en France car la plupart de ses œuvres sont à Florence ou aux États-Unis. En France, il y a seulement 2 tableaux de lui au Louvre et 1 au musée de Dijon. Alors Sigrid Avrillier a eu un parcours très intéressant. En effet, professeur émérite à l'université Paris 13, physicienne, vous avez créé au CNRS une équipe de recherche sur l'interaction entre la matière et la lumière. Membre de l'Académie des technologies, vos travaux ont été couronnés par de nombreuses distinctions, dont la médaille d'argent du CNRS et la Légion d'honneur. Vous avez également mené une carrière de peintre et de sculpteur sur pierre, et actuellement vous êtes copiste au Louvre. Sigrid Avrillier, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors vous me disiez, je suis folle de lumière et je sais donc que la lumière, c'est en quelque sorte votre vie. Alors racontez-nous.
Oui, c'est ma vie depuis que je suis toute jeune, puisque j'ai eu la chance de naître en Afrique, au pays de la lumière.
Oui.
Et dès mon plus jeune âge, je me suis posé des tas de questions sur la lumière, la façon dont elle traversait les vides, dont elle changeait les couleurs, dont elle vibrait au-dessus de l'eau. Et donc je suis...
C'est pour cela que vous avez fait cette carrière scientifique.
Tout à fait, voilà. J'avais envie de répondre à ces questions-là et de comprendre pourquoi.
Et vos parents étaient déjà dans la physique ?
Pas du tout. Mes parents étaient instituteurs. Ils m'ont appris à lire, à écrire et à compter. Voilà.
Et la lumière, ça a été quelque chose qui vous... Toute petite, donc.
Toute petite, parce que mes parents étaient instituteurs en Afrique.
Oui.
Et j'habitais une maison dont les murs étaient peints à la chaux.
Oui.
Et chaque année, pour des raisons d'hygiène, nous repeignions tous les murs à la chaux.
Oui.
Donc mes parents, qui avaient des boîtes de craie de couleur étant instituteurs, m'avaient donné l'autorisation de décorer les murs de la maison en permanence.
Ah oui.
Et je faisais des grandes fresques sur les murs d'abord de ma chambre, puis ça débordait dans le couloir, puis ça débordait ailleurs.
Ah oui, vous étiez déjà vraiment...
J'étais complètement fascinée par le blanc, par ce blanc lumineux de la chaux. Et par les couleurs, oui. Oui, oui. J'ai peint de... Je ne me souviens pas quand j'ai commencé à peindre.
Ah voilà. Oui, c'est inné, pour dire.
C'est pas inné, mais j'ai commencé très jeune.
Oui.
Très, très jeune.
Donc, vous faites une carrière scientifique ?
Donc, je fais une carrière scientifique qui me permet de continuer à jouer avec la lumière, qui est principalement axée sur l'interaction entre cette lumière et différents matériaux. Et ces différents matériaux pouvant aller jusqu'à la peau et à des organes internes lorsqu'on va les explorer avec la lumière. Donc je continue à jouer avec la lumière et à essayer de voir comment cette lumière peut nous apporter des renseignements sur la matière qu'elle rencontre et dont elle revient ensuite vers nos yeux.
Oui. Alors d'abord dans votre carrière scientifique, ça aboutit à des recherches sur la médecine en particulier ?
Oui, des recherches sur le diagnostic médical principalement.
Oui. Oui. Alors grâce à vous, on sait mieux ce qu'il y a sous la peau.
Eh oui, peut-être pas seulement grâce à moi, évidemment, mais disons que j'ai contribué à mettre au point des méthodes de diagnostic qui sont appelées non-invasives, puisque la lumière ne
fait
transforme pas, cette lumière-là en tout cas, ne transforme pas votre organisme, ne fait pas de mal. C'est juste un laser qu'on vous envoie sur la peau et qui revient ensuite.
Et donc après ce travail en laboratoire, eh bien, vous avez bien aimé faire de la copie de tableau. Alors c'était toujours pour jouer avec la lumière, si je ne m'abuse.
Bien sûr, c'était pour jouer avec la lumière, mais aussi parce que j'adore ce type de peinture ancienne, que le Louvre est un atelier splendide, magnifique, où il fait bon travailler avec de splendides tableaux à côté de soi.
Donc les peintres de la Renaissance vous ont attiré. Justement, grâce à la lumière.
Les peintres de la Renaissance utilisent la lumière de façon extraordinaire. Ils ont vraiment une connaissance intuitive de cette interaction
Oui.
entre la lumière et les matériaux sur laquelle j'ai travaillé dans mon laboratoire. En effet, ils préparaient leurs supports en bois
Oui.
en s'arrangeant pour déposer grâce à de la colle, hein, tout simplement, une couche de poudre d'albâtre sur le fond de leur tableau.
Oui.
Et d'un albâtre extraordinaire, puisqu'il s'agissait de celui de Volterra en Toscane, qui est parfaitement blanc et lumineux.
Déjà, la lumière de Toscane,
Oui,
incroyable.
tout à fait. Donc, sur cet albâtre que je travaille énormément en sculpture, pas seulement, mais beaucoup. Je travaille aussi le marbre et l'onyx, etc. Mais j'aime beaucoup travailler l'albâtre, parce que l'albâtre diffuse énormément la lumière.
Oui.
Et lorsqu'on envoie de la lumière sur l'albâtre, cette lumière rentre à l'intérieur de la pierre, change de direction des millions de fois jusqu'à retrouver la direction inverse et à revenir vers vos yeux, transportant avec elle toute cette douceur qui peut exister à l'intérieur de l'albâtre et qui font toute la luminosité d'un objet en albâtre.
Alors, c'est pourquoi vous allez donc vous intéresser, comme vous le disiez, au peintre de la Renaissance, et plus particulièrement à ce peintre, bien que nous ne connaissions pas, enfin moi particulièrement, Pontormo. Alors, Pontormo, vous avez donc choisi de copier une de ses peintures. Vous êtes donc allé au Louvre, vous avez copié la peinture, et après, vous en avez fait un livre. Alors, justement, expliquez-nous comment a commencé cette envie d'en savoir plus pour pouvoir faire d'abord la copie.
Alors oui, comment choisir un tableau pour faire une
Voilà,
copie?
déjà
Des
c'est le
tas de
premier point, bien
motivations
sûr, oui.
diverses, l'envie de travailler une époque, une technique, mais il faut surtout aimer le tableau que l'on va copier, l'aimer au point d'aller passer trois mois de sa vie devant ce tableau pour en faire une copie,
C'est
parce que
ça.
ça dure 3 mois et souvent plus longtemps que ça.
Et un travail auparavant très important.
Et un travail de préparation auparavant sur le peintre et sur la préparation du support et sur la préparation du dessin
Bien sûr.
qui se rajoute effectivement à ce temps de passer effectivement au Louvre. Et donc, avant de se lancer dans cette aventure, il faut vraiment aimer le tableau et y trouver une interrogation tout à fait particulière.
Voilà.
Et dans ce cas-là, les deux étaient réunis. Le portrait que j'ai choisi de peindre, le portrait d'un tailleur en pierre fine, comme l'appelle le Louvre,
Oui.
est un portrait. Le portrait et le portrait déjà d'un jeune homme magnifique.
Oui,
Il est très très
il a
beau.
de beaux yeux.
Il est très beau, mais
Vous en êtes
il
tombée
a
amoureuse.
complètement. Et il a de plus une attitude tout à fait étonnante. Contrairement à la plupart des autres portraits de la Grande Galerie, celui-là ne vous regarde pas dans les yeux.
Non, sa position est importante.
Il regarde ailleurs. Il regarde par-dessus votre épaule gauche. Alors on a envie de se retourner pour voir ce qu'il regarde. Ça envahit un petit peu tout l'espace.
Oui.
Et en plus, chose encore plus remarquable, de son index droit, il vous montre exactement la direction opposée à celle qu'il regarde. Et alors là, tout de suite, je me suis posé la question, mais Que veut-il nous dire? Oui. Que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un est-ce qu'il a aperçu quelqu'un derrière moi? Pourquoi il indique à ce quelqu'un la direction opposée? J'avais envie de répondre à toutes ces questions-là.
Oui. Alors, comment, justement, avez-vous pu répondre à ces questions?
Pour répondre à ces questions, j'ai commencé à m'intéresser au peintre lui-même, à Pontormo.
Oui, Pontormo. Vous le connaissiez auparavant
Ah, pas du tout, comme vous, je ne le connaissais pas.
C'est un coup de cœur quand vous avez vu ce portrait.
C'est un coup de cœur devant ce portrait.
Ah oui.
Donc je ne connaissais pas Pontormo, je ne connaissais pas, comme tout le monde d'ailleurs, personne ne connaît le tailleur en pierre fine dont il est question dans la légende de ce tableau.
On a envie d'aller le voir.
Personne n'a trouvé qui ça pouvait bien être, donc j'ai tout de suite pensé que c'était pas un tailleur en pierre fine qui était là devant nous.
Oui, alors vous allez nous expliquer pourquoi.
Voilà, tout de suite.
Si vous voulez.
Ce n'est pas un tailleur en pierre fine parce que il n'est pas en train de travailler déjà. Il y a certes une bague qui est posée sur la table devant lui, une toute petite bague en bas à droite du tableau, qu'on ne voit pas tout de suite,
mais qui est quand même
mise en valeur. Alors on la voit pas tout de suite au Louvre parce que le cadre du tableau a été mal choisi déjà. Il est un peu trop grand et il cache un petit peu cette bague qui est en bas à droite, qui est pourtant extrêmement importante dans l'histoire du tableau.
Mais oui, c'est ce que vous montrez.
Exactement.
Et si on ne lit pas votre livre, eh bien, on ne voit pas la bague.
On ne la voit pas.
Non.
Quelqu'un qui suivrait les indications du peintre la verrait quand même, puisque vous avez une diagonale de lumière qui part en haut à gauche du visage, qui se prolonge par le col de la chemise, puis la main, et qui vous amène naturellement sur la table, qui est elle aussi claire, et où se trouve la bague.
Alors, cette bague, décrivez-la.
Alors, c'est une bague, comme on en faisait en ce temps-là, à Florence, un anneau avec une pierre, effectivement une pierre dessus, sombre, c'est peut-être une améthyste, et probablement gravée.
Alors, si elle est gravée...
Ah, si elle est gravée, il faut aller regarder à la loupe ce qui est gravé dessus.
C'est que vous
ou essayer de deviner
oui.
ce qui est gravé dessus. Et effectivement, j'ai trouvé quelques indices.
Allez, dites-nous parce
que... Non, pas du tout, je ne vous dirai rien ici. parce que je ne veux pas dévoiler.
Et oui, c'est un vrai roman policier, chers auditeurs. Ce portrait, si on n'a pas l'explication, je crois que c'est impossible de trouver seul cette explication.
Oui, ça demande du temps de travail en bibliothèque, à la BNF.
Peut-être vous allez quand même nous donner un indice pour que nos auditeurs aient à cœur de lire le livre pour chercher les autres indices. Alors moi, j'aimerais peut-être l'indice historique, à savoir la main, puisque vous avez beaucoup parlé de la main. Pourquoi il y a ce signe de la main?
J'ai effectivement, en cherchant, trouvé qu'il y avait quelques portraits de exactement la même époque, quelques années près, quelques portraits florentins où le personnage pointait également son doigt vers l'extérieur du tableau. Et cette période-là correspond à une période où une partie des Florentins était ulcérée par le retour des Médicis à Florence, après 18 ans de République sans les Médicis. Ils sont revenus, imposés par le pape, par François Ier, par Charles Quint. Et donc, ils sont là, manu militari, et certains Florentins très républicains, les Piagione, c'est-à-dire les Géniards, comme on dit, la traduction française, sont furieux de leur retour et ont adopté une certaine attitude pour exprimer leur rejet, leur position.
Ouais.
Et je pense
que
cette façon d'indiquer avec son index l'extérieur du tableau était une façon de protester contre la présence de ces Médicis.
Voilà, ça j'ai beaucoup aimé parce qu'à partir d'un geste, eh bien, si on ne sait pas toute cette recherche, on ne peut pas comprendre ce que politiquement ce jeune homme était.
Voilà. Et donc, il fallait, pour y arriver, explorer l'histoire de Florence en ce début de XVIe siècle. Et c'est une histoire tout à fait passionnante que je raconte d'ailleurs dans mon livre.
Oui. Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Sigrid Avrillier, qui a écrit ce très beau livre, Un portrait de Pontormo, peintre florentin du XVIe siècle, aux éditions Macinta. Et à partir de là, elle nous montre comment la lumière a été importante dans sa vie, dans son œuvre également, et cela à partir aujourd'hui du peintre Pontormo. Alors, vous avez quand même décrit un peu le tableau. Est-ce que vous pouvez ajouter quelques traits pour que nos auditeurs l'aient vraiment dans les yeux, ce Pontormo? Par exemple, nous n'avons pas vu comment il était habillé, et ça aussi, ce sont des indices.
Oui, il a sur la tête déjà un bicorne noir,
bien sûr,
qui est tout à fait caractéristique d'une toute petite période du début du XVIe siècle, donc ça permet de le dater aussi. Oui. Il est revêtu d'un manteau brun, et d'un col en fourrure.
Voilà, on sait déjà la saison.
Un col en fourrure très douce, très belle fourrure, avec dans l'échancrure du manteau, nous apercevons une chemise d'un blanc éclatant en dentelle, mais juste une petite partie de cette chemise.
Que vous avez retrouvée sur un autre tableau.
Exactement. Et nous avons aussi la manchette. La manchette de la chemise ou de la blouse qui dépasse du manteau et qui est bleue. Ce bleu est en fait la seule tache de couleur vive dans le tableau. Et il nous donne aussi un indice.
À savoir
qu'il attire l'attention sur ce que fait la main droite, puisque c'est à la main. On ne voit pas la main gauche. La main gauche a disparu. La main gauche devrait tenir la bague, mais ne la tient pas. La main gauche, on ne sait pas où elle est dans le tableau. Elle doit être sous la table. Et donc, la main droite est mise en évidence par cette manchette bleue et par la lumière qui tombe sur la main. Et la main tient négligemment un petit outil, un manche de bois très fin, qui doit servir à graver les pierres. Mais cet outil n'est pas du tout mis en valeur dans le tableau, ni par la lumière, ni par sa taille. Et je pense qu'il est là juste comme prétexte pour faire croire que ce personnage est un joaillier, mais il n'est pas joaillier.
Ouais. Alors, vous l'avez deviné, chers auditeurs, ce Pontormo, c'est quand même un peintre exceptionnel. Et justement, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu sa vie.
Oui, ça, je peux vous en parler tout à fait. Alors, maintenant, Pontormo est un jeune Florentin qui est né à Pontorme, justement.
Oui, parce que Pontorme, c'est le nom de son village.
En fait, c'est le nom de son village natal.
Comme beaucoup de peintres portaient
de
le nom
tout
du
à fait.
Village, oui.
Alors, en fait, il s'appelle Jacopo Carucci. Et il est né 6 ans avant la fin du Quattrocento.
Oui.
Il est né là d'une famille d'artisans et il devient orphelin très rapidement. Il perd son père quand il a 5 ans, sa mère lorsqu'il a 10 ans. Et à l'âge de 13 ans, sa grand-mère l'emmène à Florence et le laisse chez un savetier. Parce qu'elle sent qu'elle est fatiguée, qu'elle va plus pouvoir s'occuper toute seule de ce petit-fils. Et d'ailleurs, elle décède très rapidement après. Donc, Jacopo Pontormo, à 13 ans, est orphelin dans la ville de Florence, et il devient pupille de la République de Florence.
Il faut savoir quand même que Florence, c'est une grosse ville, 100 000 habitants, c'est ça?
Oui, alors, c'est une grosse ville pour l'époque.
Oui.
Pour nous, ça ne nous paraît rien du tout.
Mais quand même, à cette époque, c'est quand même...
100 000 habitants, oui. C'était quand même une ville importante.
Et artistique.
Et artistique. Énormément d'artistes dans cette ville. Bon, tellement que je ne peux pas en faire la liste, mais vous l'avez dans le livre, avec toute la chronologie.
Ah, oui, vraiment.
Ça, c'est important, je crois, de l'avoir.
Et l'histoire, vous avez très habilement montré quelle est l'histoire à cette époque. Et puis également, effectivement, tous les portraits que l'on peut avoir. Alors, si vous voulez bien peut-être maintenant nous dire, justement, il est entré dans un établissement, chez un peintre exceptionnel, ça c'est beaucoup de chance, il faudrait nous en parler.
Oui, alors, il a la chance. Donc, comme vous le disiez, Florence est une ville avec une très forte activité artistique, beaucoup de commandes. Et les ateliers d'artistes sont donc débordés de travail.
Oui. Et alors,
pas adopté, mais il se trouve que Léonard de Vinci a besoin d'un apprenti.
Je vous laissais dire son nom, parce que c'est quand même beaucoup de chance.
Oui, c'est incroyable. Il a cette chance incroyable de devenir garçonni, aide. Dans un atelier fabuleux qui est celui de Léonard de Vinci, qui est en train de parachever la Joconde, la Vierge Rocher avec Sainte-Anne, et qui connaît peut-être la famille de Jacopo Carucci.
Et parce que c'est tout près, son village.
Voilà, parce que Pontormo et Vinci sont très proches l'un de l'autre. Donc Pontormo fait des débuts, il doit être complètement fasciné.
Ah oui.
Mais malheureusement, Vinci part l'année suivante.
Oui.
Il quitte Florence pour Milan pour diverses raisons. Mais il confie auparavant son...
Parce qu'il s'est rendu compte quand même, je crois, qu'il avait des qualités exceptionnelles.
Il s'est rendu compte effectivement que Jacopo avait des qualités exceptionnelles. Et il le confie à ses collègues. Et là, Jacopo va avoir la chance de travailler dans plusieurs ateliers, les uns après les autres, plusieurs ateliers prestigieux de peinture à Florence, en commençant par Piero de Cosimo, en passant par l'atelier de San Marco, et puis en finissant par celui d'Andrea del Sarto, où il a la chance aussi de rencontrer Rosso Fiorentino, qui devient son copain.
Exactement.
Ils ont le même âge, ils travaillent et jouent ensemble, on va dire aussi.
Et on peut dire aussi qu'il est remarqué par Raphaël.
Tout petit, pas si petit que ça, mais lorsqu'il est chez Albertinelli, c'est-à-dire à l'atelier San Marco, je crois qu'il a 16 ou 17 ans à l'époque, 17 ans, Raphaël remarque un petit tableau de visitation qu'a fait Pontormo, et tombe en arrêt devant et lui prédit à Pontormo le plus bel avenir.
Et c'est ce qui va arriver d'ailleurs.
C'est ce qui va arriver d'ailleurs. Oui,
d'ailleurs, lui-même va aussi faire école, puisqu'il va avoir un élève qui va devenir aussi un ami. Trois amis.
Tout à fait. Il reprend son envol très rapidement en réalisant des fresques au-dessus de la porte de l'église Santa Annunziata. Fresques qui sont remarquées d'ailleurs par Michel-Ange lui-même. Il est vraiment remarqué par les grands peintres de l'époque. Vous me parliez de ses élèves, et effectivement, il fait école, il crée son propre atelier, et a parmi ses élèves Bronzino.
Voilà.
Le petit Bronzino arrive chez lui lorsqu'il a, je crois, seulement 9 ans. Et d'ailleurs, Pontormo le fait figurer dans un de ses tableaux qui s'appelle La vie de Joseph, qui est à la National Gallery. Et où on voit ce petit garçon improbable assis sur une marche au milieu d'un décor qui ne lui correspond pas du tout. Et Pontormo se représente lui-même dans le tableau, en train de regarder son élève. Et dans cette histoire d'une relation père-fils, il insère sa propre histoire de relation entre le maître et son élève.
Oui. Oui, tableau qui doit être très touchant, enfin, vous l'avez
oui,
vu,
tout
parce
à
que
fait, oui.
Je signale à nos auditeurs que vous êtes allé à Florence pour bien voir ces tableaux
oui.
et pour chercher même où Pontermo avait pu mettre ses amis, comme vous venez de l'expliquer. Il y a plusieurs tableaux qui comportent ainsi...
Alors, c'est surtout, Pontermo a surtout l'habitude de s'auto-portraiter dans ses
oui.
tableaux. Il figurait souvent dans ses tableaux, donc c'est très amusant de le retrouver.
Mais c'était assez
personnages
habituel quand même.
Et pas si habituel que aussi habituel que ça. Il y a quelques-uns bien sûr,
oui.
que comme il y a des exemples célèbres de Botticelli se représentant
oui.
dans un de ses tableaux.
Mmh.
Mais lui le fait beaucoup plus souvent que les
ah,
autres.
Oui.
Et il s'amuse à se représenter à des âges différents. C'est très drôle. Il n'a oui. pas jamais l'âge. Auquel
oui, parce
il
que
peint
ça,
son tableau.
Je vous interromps parce que c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans votre livre. Vous montrez aussi les différents âges de Pontormo
oui.
et avec des représentations bien sûr différentes.
Exactement.
Et ça,
exactement.
C'est très intéressant. Alors,
ceux qui représentent, ce sont ses élèves.
Oui, c'est ça.
Ses propres élèves comme Bronzino et puis ensuite l'élève de Bronzino, Allori, parce que c'est une espèce de grand-père, de père et de fils. Quand vous
oui,
dites Pontormo, Bronzino, Allori, c'est une
filiation,
dans la peinture. Et Bronzino et Allori ont gardé l'habitude de représenter leur maître, Pontormo, dans leurs tableaux. Et on peut voir donc Pontormo dans les tableaux à Florence, soit peint par lui-même, soit peint par ses élèves pendant des années et des années.
Alors, bien sûr, la question qui se pose, comment se fait-il que nous ne le connaissions pas? Comment se fait-il qu'il y ait eu toute cette période d'oubli? Parce que c'est impressionnant quand même, un peintre qui était un peu comme Michel-Ange, que vous citiez,
oui, même,
et qui
pratiquement
est complètement
au même niveau, oui.
tombé dans l'oubli. Quand je dis Pontormo, personne ne connaît, heureusement, avec notre émission et votre livre, on va connaître, mais sinon...
Alors, Pontormo est devenu, oui, c'est vrai, le plus grand peintre de Florence.
On peut le dire, oui.
À la mort d'Andrea del Sarto. Andrea del Sarto est mort prématurément de la peste. Il ne reste à Florence, parmi les grands peintres, que Pontormo pour égaler Michel-Ange et Raphaël.
Oui.
Et il reçoit beaucoup de commandes. Il devient très, très connu. Et pourtant, il fut oublié. Alors, pourquoi? Eh bien, il est victime de deux choses principalement. D'une part, de la jalousie de Vasari.
Vasari, c'était un méchant.
Principalement
hein.
de cette jalousie, parce que Vasari a fait un travail extraordinaire, puisqu'il est le premier historien de l'art de l'histoire. Donc, il a fait un recensement de tous les peintres et les tableaux de l'époque. Mais il était extrêmement jaloux de Pontormo, et donc il en a fait une description déplorable,
ouais.
qui est restée chez les historiens de l'art jusqu'à aujourd'hui.
Heureusement que vous êtes intervenu, que vous avez écrit ce livre, qui a été préfacé par un grand, peut-être pouvez-vous nous en parler un petit peu.
Oui, bien sûr, j'ai eu la chance, une très grande chance, de pouvoir obtenir une préface de Philippe Costamagna, qui est l'auteur du catalogue raisonné de Pontormo. Et qui a pu m'aider à prendre confiance dans le fait de publier ce livre. Oui.
Eh bien, chers amis auditeurs, je vous recommande encore ce beau livre, Un portrait de Pontormo, Sigrid Avrillier, aux éditions Macenta. Un grand merci à vous et je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci.
Merci.